En ce jour de Pâques, j'ai la chance d'être avec le père Roger Mbongo, prêtre du Congo, présent en Alsace pendant un an pour poursuivre ses recherches, mais nous allons vous découvrir dans tout cela. Et pour moi, c'est important de vous recevoir en ce jour de Pâques parce que votre itinéraire, pour moi, est un signe de lumière, d'espérance et d'engagement qui prend sa source au cœur même de ce qui est Pâques. Alors, on va d'abord commencer par le commencement. Qui est Roger Mbongo? D'où vient-il? Où est-il né?
Ah! D'abord, avant de répondre, je voudrais dire merci à la radio diocésaine qui m'invite toujours quand je suis de passage. Et surtout, j'avais une grande joie que salue les Alsaciens qui m'ont accueilli et que j'ai la joie aussi de rencontrer à travers la radio diocésaine. Et donc, à eux, je dis Alléluia déjà pour la Pâque. Et Roger, ils le savent bien, je suis prêtre diocésain du Congo Kinshasa, de Bukavu, à l'est du Congo.
Quelle était la composition de la famille Mbongo?
Famille Mbongo, c'est une grande famille de 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Et je suis l'aîné de la famille. Comme aîné de famille, papa avait, comme tout parent, un projet même sur moi, il faut le dire comme ça. Il voulait que son fils aîné soit nickel, qu'il soit intelligent, qu'il puisse aborder les études qui avaient de la hauteur et même plus ou moins une considération sociale. Comme c'est une formation scientifique, j'ai fait la maths physique. Donc du coup, papa pensait plutôt engendrer un ingénieur, un polytechnicien qui devait aller à Kinshasa, à 2000 km, après les bacs, pour qu'il montre aussi qu'il a un fils à la hauteur de son travail dans l'agence maritime.
Et alors, Roger prend une autre voie, vous prenez une autre voie, et vous vous dites, le Seigneur m'appelle peut-être, et je vais aller vers des études de philosophie et théologie. Comment c'est pris par le papa?
Papa n'était pas très content parce que ça brisait son projet. Par contre, maman qui, je l'ai oublié, qui est de la Légion de Marie. Important. Alors, on y a fait un peu d'humour en famille et maman a dit, voilà, papa n'est pas d'accord. On va voir, je prendrai mon chapelet et verrai votre papa, on va voir qui va gagner. Donc, c'était comme un défi en famille. Et c'est maman qui a gagné finalement parce que je suis orienté au grand séminaire. Du coup, je me suis dit, ah, cette paternité-là, ouverte à l'universel, elle me parle.
En 90, Roger, vous êtes ordonné prêtre pour le diocèse de Bukavu. Mmh. Votre évêque vous confie une mission, laquelle?
Alors après l'ordination, très vite, on m'a nommé formateur au petit séminaire, ça existait encore chez nous. J'ai fait la formation, mais j'ai aussi fait la paroisse. Et c'est en paroisse de campagne où j'ai découvert les vraies questions que se posent les chrétiens. Ils n'attendent pas de nous de grandes philosophies, de grandes théologies, mais des hommes qui sont à leur écoute, à leur service. Et dans les milieux pauvres, une paroisse en fondation, j'ai vu les générosités, comment elles grandissaient. Je me suis rendu compte que je pensais être formé pour tout apostolat. Et puis, j'ai senti ma pauvreté. Donc, du coup, je me suis dit, l'itinéraire ancien que j'ai eu au séminaire moi-même, pour me former, ne suffisait plus pour aborder ces questions vitales que nous posent les pauvres gens du village avec de diverses situations sociales. Du coup, j'ai interrogé mon itinéraire ancien pour dire, eh oui, je me rends compte que j'ai besoin d'un temps de formation spirituelle pour que je puisse rencontrer en vérité ce genre de situation et pouvoir être vraiment pour un signe d'espérance.
Là, ça vous amène donc en France, voilà, avec un temps de discernement, de coupure, qui vous amène dans le Vaucluse.
Parce que mon père spirituel au grand séminaire, c'est le tout premier prêtre africain à venir à Venasque, à Notre-Dame-des-Vies, c'est le séculier du Carmel. Il m'a dit, Roger, tu as de la chance parce que d'autres prêtres découvrent ça souvent à un âge tardif. Alors voilà ce qui m'est arrivé. Et du coup, il m'a recommandé à Notre-Dame-des-Vies, où j'ai passé 2 ans de noviciat, d'initiation à l'oraison, découvrir les maîtres du Carmel, Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint-Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, et du coup, avec un cadre approprié pour non seulement apprendre l'oraison, mais vraiment l'exercer au quotidien dans ce cadre-là.
Amen. kwa baba Joni wote tu mabudu Yesu Kristu Mungu makombozi wetu aliyekufa msalabani kwa ajili yetu amefufuka lote akapanda mbinguni sasa naketi kumeni kwa baba
Joni Voté, Venez tous, un chant de Pâques du Congo en Swahili, composé par l'abbé Dieudonné Matandiko du diocèse de Bukavu, d'où est originaire le père Roger Mpongo, que l'on retrouve maintenant.
En 1996, quand j'arrive en France, un drame, j'arrive comme orphelin, j'apprends derrière moi que mon évêque, Christophe Mouziyiwa, vient d'être assassiné, avant que j'aie le visa pour la France. Donc j'étais entre deux eaux, mon diocèse, occupé par l'armée rwandaise. Je ne peux pas rentrer à Bukavu, c'est la guerre. Et la France m'attend, mais je n'ai pas de papier. Jusque l'autre drame, deux ans après, je pense rentrer chez moi. L'évêque Monseigneur Catalico, qui avait remplacé l'évêque assassiné, lui aussi, oui, il venait d'être pris en otage par la rébellion qui occupait la région. 7 mois, prise d'otage. Et en 2000, lorsqu'il vient à Rome pour le jubilé dans 2000, pour venir remercier le Saint-Père Jean-Paul II, qui avait vraiment travaillé pour qu'il soit libéré. Et oui, il meurt en pleine séance d'évêque, donc à Rome en 2000. Donc moi, je pensais rentrer, du coup.
Deux drames qui vont marquer votre existence et qui, du coup, vont dire « je ne peux pas retourner comme ça ».
Voilà. Alors, comme l'évêque qui venait de mourir en 2000 avait déjà planifié qu'il faut que je continue le troisième cycle, parce qu'il a besoin de moi comme formateur au grand séminaire et à l'Université catholique de Bukavu. Et donc, je l'ai quand même réalisé en choisissant Strasbourg. Donc voilà, 2001, je viens à Strasbourg.
Voilà, vous décidez de venir, et beaucoup vous connaissent à partir de là, oui, de venir faire vos études de troisième cycle avec une thèse dont on va parler, avec, je dirais, une double vie, si vous me permettez ce terme-là.
Oui.
Une vie d'étudiant, de troisième cycle, et puis une vie de prêtre inscrit dans les soutiens à la vie paroissiale, à Colmar, à Rouffach, avant tout dans le Haut-Rhin. Quelle impression première vous avez eue de la découverte de notre région et de votre inscription comme prêtre dans cette église diocésaine?
Le fait que l'Alsace soit frontalière avec l'Allemagne, et que vous comprenez que derrière moi il y a une histoire avec le pays voisin, du coup j'étais attentif à l'histoire de l'Alsace, de la France et de l'Allemagne, qui va m'interroger. Quand je vois des communes jumelées avec les communes allemandes, je me dis « ah, après tant de ce qui s'est passé, ils arrivent déjà aujourd'hui à avoir des jumelages », je dis. Donc, on peut renaître des cendres. Ça, je pense de la guerre à ce moment-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dois vous dire combien j'étais très heureux d'avoir un accueil partout où je suis passé. Ils m'ont apaisé, ils m'ont guéri de ces manques de contact avec mon pays. Je suivais, ils savaient aussi, je partageais aussi avec les amis les blessures de la guerre, de drames de tuerie chez moi. C'était pas évident de vivre ça en paroisse, à l'université, tout en portant cette lourdeur, ces repères dramatiques de gens qui meurent. Et les mots, vraiment, c'est la compassion. J'ai senti autour de moi une compassion, une bienveillance. Et aussi certains qui sont proches de moi. Et pendant 8 ans, je ne me suis pas ennuyé. J'ai senti qu'il fallait vraiment cette présence.
Avec vos confrères prêtres d'Alsace, comment ça se passait?
Ah, ça dépend de paroisse, en fait.
Pas toujours facile.
Pas toujours facile, parce que, disons-le comme ça, certains avaient du mal, ou ont du mal souvent à comprendre notre mission de prêtres étudiants. Et oui, il faut dire de notre côté qu'il faut aussi nous mettre à leur place. souvent accueillent quelqu'un qui a des repères culturels qui ne sont pas les leurs. Les temps d'intégration, c'est aussi un temps de souffrance pour eux souvent d'entrer directement dans la pastorale telle que c'est présente. Les temps qu'on s'initie aussi à s'adapter, ça fait qu'il n'y a pas que de leur côté. Je le dis avec un peu de recul maintenant. On doit en fait pratiquement, oui, s'apprivoiser pour voir un peu jusqu'où on peut aider la pastorale qui leur tient à cœur. Et nous, combiner nos études et la pastorale.
Roger, vous passez 8 ans en Alsace. Il y a des liens, de l'affection qui se créent. Oui. Et puis, néanmoins, il est temps de retourner servir votre diocèse de Bukavu. Comment, après une telle période, on retourne dans son pays? Quelles sont les impressions? Est-ce qu'on est attendu?
Déjà, avant de rentrer, je l'ai dit au nom de confrères prêtres qui sont en ministère ici, on est souvent aussi tiraillé par 3 questions. D'une part, ici, on vous dit, quand est-ce que vous rentrez chez vous? Deuxième question, elle vient de chez nous. Qu'est-ce qu'il fait encore en Europe? Quand est-ce qu'il rentre? Troisième question, c'est là, et pas une question, mais un constat. Si on prépare une thèse, on vous dit, c'est pas encore au point. Vous sentez que c'est une tension terrible entre ceux qui vous attendent, ceux qui attendent aussi qu'on leur dise si on est encore là pour combien de temps. Et le directeur de thèse qui vous dit, eh oui, la thèse n'est pas mûre, elle n'est pas encore au point.
On se sent finalement installé et attendu nulle part.
Exactement. Alors en rentrant au pays en 2009, est-ce que j'étais attendu? Oui, mais après, je dois dire ça en vérité, après tant d'années d'absence au diocèse, d'autres paramètres ont changé. Surtout quand on était dans un pays où il y a eu la guerre, des vies humaines sont disparues. De confiance entre les gens, il y a plutôt une méfiance parce qu'on ne sait plus qui vient. Donc du coup, on doit passer à une deuxième phase d'intégration, cette fois-ci chez soi. Et d'autres aussi, je dois le dire aussi, qui vous regardent un peu si vous êtes resté africain ou congolais après tant d'années en Europe. Et là, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça.
Roger, vous vous impliquez à la demande de votre évêque dans la formation au séminaire, mais également, et je crois que ça c'est un trait fort de votre existence, vous vous engagez. Vous vous engagez au service de la population. Rappelons que la région dans laquelle vous habitez, qui est frontalier avec le Rwanda, le Burundi, c'est cette petite enclave-là qui a été tiraillée par des drames incroyables,
exactement,
par le génocide, et vous vous dites... Après tous ces drames-là, il faut travailler autour de la paix, de la réconciliation, et vous participez à la création du foyer de paix. Cet engagement-là, il est essentiel pour vous.
Ça, c'est pour moi parce que d'une part, je ne l'ai pas dit, mais je dois le redire ici. À Strasbourg, j'ai trouvé un cadre magnifique. J'ai fait avant la thèse un DEA en théologie, mais j'ai fait en même temps aussi un diplôme en théologie pratique. Donc du coup... Cette pratique m'accompagne aussi dans la manière de mener ma pastorale. Et puis ma thèse elle-même qui portait sur les relations Europe-Afrique, à partir de 2 grands penseurs, Emmanuel Mounier qui est philosophe de l'engagement, avec Marc Sagné qui est vraiment un homme de l'engagement aussi, avec la conception franco-allemande. Ce que j'ai appris, c'était vraiment pour servir, mieux servir mon pays et surtout... être aux côtés des plus pauvres parce que ce pays a été appauvri à tous les niveaux.
Quels sont les défis que vous tentez de relever maintenant depuis plus de 5 ans?
Le premier défi, c'est d'abord arriver à proposer à nos enfants, à nos jeunes, une autre lecture des événements, de manière à ce qu'elles ne s'enferment pas dans les drames qui a meurtri cette région-là. Le génocide de Rwanda a causé beaucoup de drames, beaucoup de déchirures. Et quand je vois au plan sociologique les amitiés qui se sont tissées entre les Rwandais, les Burundais, les Congolais, au niveau universitaire, au niveau commercial, et je sais de saisir ces réalités sociologiques pour bâtir justement des rencontres, des réflexions, éventuellement, surtout, je me suis dit, soyons pratiques, les problèmes de la paix, c'est aussi d'abord, ici comme chez nous, les problèmes qui sont souvent liés au chômage. Beaucoup de gens sont au chômage et je me suis dit, je vais cibler des écoles professionnelles où ces jeunes peuvent apprendre des métiers porteurs d'avenir pour leur vie, pour leur pays, éventuellement aussi que ces lieux deviennent aussi lieu de rencontre, d'échange de manière constructive.
Et en même temps, ce chemin-là, il est difficile.
Il est difficile.
Il prend des forces, hein.
Difficile parce que d'une part, vous imaginez quand vous atterrissez comme ça, quand vous allez au Rwanda, vous êtes du Congo, on vous dit mais on ne vous réfute pas parce que j'ai des amis au Rwanda, mais au niveau politique c'est comme un suspect qui vient au Congo, pareil, quand on apprend que vous allez au Rwanda, le pays qui s'était supposé vous agresser, qui est, disons la vérité, qui est un pays ennemi, vous devenez un traître. Donc vivre ces deux réalités, d'une part vous êtes traître chez vous, suspect là où vous allez, vivre cela pendant un certain moment, où vous devez vous accrocher à l'essentiel, c'est-à-dire dire au Seigneur, et au niveau de la foi vraiment, pleurer, c'est encore de larmes qui sortent. Seigneur, je crois que c'est ça la vérité, c'est ça le chemin qui me libère, qui libère d'autres, mais aide-moi à ce que ce chemin soit les vrais, qu'en même temps, il sauve au moins 2, 3, 4 vies humaines, parce que je n'ai pas sauvé, comme un messie, toute l'humanité, mais toute la situation. Donc, du coup, c'est encore un autre moment de dépouillement, de désert, où je dois prendre, souvent me mettre les gants, pour savoir que dire, qui les dire, à qui les dire, qui peut me comprendre, et surtout avec qui commencer cette aventure-là.
Et nous retrouvons le père Roger Mpongo dans une petite minute pour la troisième et dernière partie de cette rencontre, le temps d'écouter The Harlem Gospel Singers, His God, Il est Dieu.
Vos paroles résonnent vraiment tout à fait particulièrement en ce jour de Pâques. C'est de vivre, et ça a été votre quotidien, le chemin de croix.
Oui.
Et ça vous a amené à dire, j'ai besoin de retrouver encore une fois la vitalité, la ressource intérieure suffisante. Et ça vous a amené à revenir pendant un an en Alsace, pendant cette année 2016, aussi pour poursuivre votre travail de chercheur étudiant.
Oui, justement, je viens avec, c'est vrai, un grain d'espérance parce que je commence déjà à voir sur le terrain beaucoup de jeunes. Je leur laisse la responsabilité déjà. Donc, ils commencent à construire. Parce que notre slogan, c'est « construire en se construisant ». Je laisse des gens qui sont capables maintenant de construire un bâtiment, qui sont insérés dans la vie sociale. Et je leur dis, voilà, maintenant, c'est à vous de mener l'aventure, les temps que moi aussi j'ai épuisé un peu de force. C'est parce que au quotidien, quand vous devez écouter les drames de chacun de ces jeunes, je n'ai pas dit aussi de ces femmes aussi, certaines qui ont été violées, qui viennent à Cambé aussi, à certains moments humainement, Je sens leur poids et je les porte. Donc je viens fatigué un peu, mais en même temps heureux de pouvoir retrouver un cadre où non seulement je peux prier pour eux, disons-le comme ça, charger les batteries pour qu'après une année, je rentre aussi avec déjà d'autres forces pour continuer cette aventure sous d'autres modalités, parce que maintenant j'ai une équipe sur place qui continue de travailler.
Roger Mpongo, le temps passe vite, il est temps de conclure. La dernière question que je vous poserai, qui est plus un appel, qu'est-ce que vous lanceriez en ce jour de Pâques comme appel d'espérance, de lumière, de joie à tous nos amis alsaciens qui vous écoutent aujourd'hui?
Oui, je leur dis d'abord merci pour leur amitié, parce qu'on ne rentre pas dans une région si on n'y a pas d'amis, si on n'y a pas trouvé des trésors. Chacun d'eux a été pour moi vraiment une lumière sur ma route. C'est la lumière de Pâques. Cette lumière de Pâques n'est pas seulement au siège pascal, c'est chaque visage qu'on rencontre, chaque geste d'amitié qui nous est donné au moment où on en a besoin, chaque parole aussi de bienveillance, de réconfort, et j'en ai eu, j'en reçois au quotidien. Mais je pense que ce qu'on a dit avec vous montre que ce chemin pratiquement qui conduit vers Pâques, chacun le parcourt avec ses joies et ses peines, et que moi je crois que l'image qui m'est venue pendant ce temps de carême, c'était l'image de Simon de Cyrène, ou Jésus lui-même qui a besoin de secours de l'humain. D'une part, l'humilité de Dieu, comme dirait François Varion, mais la faute de l'homme lorsque cet homme-là accepte de cheminer avec ses dieux, qui s'est fait homme, qui prend nos souffrances et qui souvent aussi a besoin de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, pour qu'avec lui on aille vers la lumière des Pâques. J'ai médité beaucoup pendant ce temps que je suis en Alsace sur l'aventure de Simon de Cyrène. Et j'en ai rencontré en Alsace, vous avez suivi mon histoire, qui m'ont aidé. Et chaque fois que nous rencontrons aussi un humain qui porte lourd, je rencontre aussi. Et quand on peut l'aider à faire un pas de plus vers plus de joie, plus de paix, et plus d'amour, je crois que là nous sommes dans une aventure de foi vers une Pâque, et celle-là, elle est éternelle.